Europe 1, en balade avec Titoff. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Titoff que nous partons en balade aujourd'hui. Il y a 20 ans, il a été le premier humoriste en France à faire du stand-up sans même savoir ce que c'était. Aujourd'hui, il est au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans Amoureux, mise en scène par Patrick Timsit. Il partage la vedette avec une inconnue qui a la moitié de son âge. Il revient au sketch, il n'a vraiment peur de rien.
Frédéric Taddeï, en balade avec Titoff sur Europe 1.
Et l'on retrouve tout de suite Titoff attablé avec Patrick Timsit à la Rotonde de la Muette. On est chaussée de la Muette dans le 16e arrondissement. Bistrot de luxe. Hein. Vous êtes à l'aise tous les deux.
Ah, les canapés sont en velours.
Ah oui, oui. C'est bistrot de luxe, enfin, un peu vieillot. Hein, c'est un... Et encore là, ça vient d'être rénové.
Oui, et c'est très familial. C'est très 16e arrondissement.
Oui, il faut se planquer au milieu de la masse.
Vous ne trouvez pas qu'il y a de plus en plus de comiques?
Ah, mais moi, je
fais... Je n'ai pas dit des humoristes.
Je fais du théâtre, monsieur. Je fais plus partie de ce monde-là. Je joue avec une partenaire, j'ai écrit des dialogues. Et souvent, on dans des lieux, parce qu'on a rodé, enfin, ce qu'on appelle rodé, dans plein de petits théâtres et tout ça. Il y a plein d'affiches, effectivement, de comiques.
Oui, absolument. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
De plus en plus, quand même.
De plus en plus, oui, certainement, certainement.
Est-ce qu'il y a un code d'honneur des humoristes?
Oui, de ne jamais copier les Américains. Ça,
c'est une règle qui est appliquée à la lettre. Chacun signe une charte.
Ah, oui, oui, ça, oui. Vraiment... Le seul problème, c'est qu'on trouve de moins en moins de magnétoscopes. Et il y a des spectacles qui sont que...
Il y a quelqu'un qui répare les magnétoscopes.
Ah, il se fait un fric
fou. Il est dans le Vaucluse, pour le retrouver. Il a une toche blanche, il fait des grippins aussi.
Les magnétoscopes, vous voulez dire, c'est pour mettre des cassettes et voir ce que font les autres et le copier.
Alors, moi, j'ai jamais fait ça, mais il paraît que certains l'ont fait.
En tout cas, moi, je dors bien.
Frédéric Taddeï se balade avec Titoff sur Europe 1.
Vous entendez bien, tous les deux, depuis que l'un est le metteur en scène de l'autre?
Ça pourrait pas en être autrement. On ne s'est pas rencontrés en se disant, tiens, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai été voir le spectacle quand il jouait au Blanc Manteau. Et puis, au théâtre de 10h, on a été dîner. Et puis, je lui dis à quel point, vraiment, c'était vraiment drôle. J'avais vraiment aimé le spectacle. Puis, en parlant, on se disait qu'il y avait peut-être des petites choses à faire, des trucs un peu plus... Ah, tatati, tatata. Et puis surtout, pas rester au théâtre de 10 heures, justement. Ça prendrait toute sa puissance, parce que le spectacle est écrit par Titoff, mais aussi par une blogueuse, une jeune femme que j'ai rencontrée, la vingtaine d'années. Donc, c'est drôle et intelligent. Mais c'est drôle. Désolé d'être vulgaire, c'est extrêmement drôle. Hein. Tu vas peut-être être déçu, mais les gens rient énormément. Non, oui. Parce qu'il y en a qui veulent faire intelligent. Tant pis, c'est pas drôle. Et pour faire des spectacles d'humour.
Non, mais c'est, non, le spectacle était en création et justement, c'était ouvert à un autre regard, une mise en scène. Et vraiment, c'est un bonheur absolu. Ça paraît con, mais c'est vrai que dans ce métier, c'est génial parce que parfois, on est fan de quelqu'un et puis des années après, on travaille avec. Et c'est génial. Et je peux dire que il est encore plus sympa dans la vie que sur scène.
Ah oui.
Et c'est drôle, drôle. Et intelligent, il est brillant. Ah,
pourquoi tu fais pas ça sur scène, Patrick? Les gens mériteraient de savoir ça aussi. Non, c'est vrai que c'est une série de tableaux. C'est un sujet, je ne sais pas en quoi ça m'a concerné, touché, parlé à l'oreille. C'est un couple et ils ont 20 ans d'écart.
Ouais.
Mais au-delà des 20 ans d'écart, parce que là, on sera encore dans un thème finalement...
Toi, t'as beaucoup plus avec ta compagne.
Qui a dit ça?
Les magazines.
Non, les magazines, mais quel magazine? Il n'y a pas de magazine.
T'as pas de compagne?
Non, j'ai ni compagne ni magazine. Monsieur, retirez ça immédiatement.
Ah bon?
T'es
célibataire?
Bon, elle a 30 ans d'écart. Ouais, mais elle a 30 ans de plus.
Ça aurait été un bon sujet aussi.
Qui a été fait dans le dernier spectacle que tu n'as pas vu, que vous n'avez pas vu. Elle a 30 ans d'écart, oui, oui. Je faisais assistant sexuel. Voilà un joli sujet. Il y en avait une, elle n'avait pas l'économie, elle voulait quand même qu'on la branle. Tu t'imagines? C'est horrible. Ça va changer de ton. Hein.
Oui, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après avec Patrick Timsit et Titoff.
C'est dans une brasserie du 16e arrondissement de Paris que la balade de Frédéric Taddeï et Titoff continue. Et pour l'occasion, ils ne sont pas que tous les deux.
Nous sommes toujours à la Rotonde de la Muette avec Titoff et son metteur en scène, Patrick Timsit. Quand est-ce que vous avez su, comment vous avez su tous les deux que vous étiez drôle? Vous, Patrick Timsit, vous étiez agent immobilier, Titoff voulait faire du football. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit c'est bon, je suis drôle, je peux y aller?
Ben quand les gens rient déjà, et
mais
surtout...
c'est les copains qui rient.
Oui, oui, la famille d'abord même. Ouais. Ce sont des réunions familiales. Mais il y a une volonté. Y a une, au début, on pense qu'on est drôle. Et puis après le premier bide que j'ai pris, j'ai pensé qu'il fallait que je travaille pour être drôle. Ça a été réglé, c'était pas loin d'ici, c'était au théâtre du Ranelagh. Je suis arrivé, j'avais encore du monde dans ma loge une minute avant d'entrer sur scène. J'avais jamais mis les pieds sur une scène. Il était à peu près 10h30, on m'avait prêté le théâtre et c'était que des amis et de la famille. Ils ont ri énormément parce qu'ils se sont moqués de moi. Vous savez, quand le schpounz, tu n'es pas drôle, tu es ridicule. Si, si, c'est vrai.
Je ne peux pas le croire.
Et heureusement qu'il y a eu une deuxième parce que sinon j'aurais arrêté. Donc être drôle, on ne se dit pas on est drôle, c'est les gens qui doivent le dire.
Et vous, vous vous souvenez de...
Papa avait un château. Il voulait que je m'en occupe et c'est là que j'ai dit il faut que je trouve un échappatoire. J'ai vu à la télé des saltimbanques et je me suis dit, tiens, ça peut être une belle ouverture. Non, moi, mon public, je l'ai toujours, hein, c'est ma mère, mes tantes. Ça vient de l'autre côté de la Méditerranée, ça rit très fort. Même ça rit certaines fois, même beaucoup de fois, où il n'y a peut-être pas raison de vraiment de rire à ce point, mais ça donne confiance. Moi, au départ, j'ai vraiment le côté généreux, quoi. Le côté, on oublie un peu voilà, que parfois la vie ça peut s'arrêter, et qu'on rit, et les copains aussi. Et le côté à Marseille, avec le côté de se chambrer, tout ça, c'est un vrai sport national. Et au départ, j'étais vraiment branché théâtre, j'ai fait des impros, puis du café-théâtre en troupe. D'ailleurs là, je reviens un peu à mes premiers amours, en écrivant des dialogues. Et puis j'avais prévu un duo, et mon pote m'a lâché. Et j'ai dit, merde, putain... Je peux pas, je vais écrire un one man. Et là, le premier jour, c'est d'une violence inouïe. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai écrit? Et puis on y va, parce que là, il n'y a plus de partenaire. Le partenaire, c'est le public. Et c'est pas naturel du tout, en fait. Hein. Maintenant, oui, c'est avec l'histoire du stand-up à stand-up. Et d'un coup, tu commences à arriver à raconter des connes. Et puis bon, heureusement, moi, ça arrive. Et là, c'est un soulagement.
Vous allez vraiment incroyable. Faire vos adieux, Patrick Timsit?
Oui, je vais faire. Alors, évidemment, il y a toujours une provocation dans le titre, puisque le titre, c'est Adieu peut-être, merci, c'est sûr. Mais il y aura peut-être et certainement, si jamais, parce que là, ça a l'air de répondre fort. On est à l'Olympia, c'est en 2020, en décembre 2020, et je me dis comme c'est déjà des gens qui réservent leur place pour voir les adieux, on dirait qu'ils sont contents, quoi. Alors que moi, j'attendais tout le contraire, qu'on me dise, mais pourquoi vous n'allez pas arrêter comme ça? Si j'arrête parce qu'on me dit justement, pourquoi on n'y croit pas? Voilà, c'est mieux que de partir comme l'autre pauvre Wauquiez, où tout le monde était content qu'il parte. À un moment, il faut savoir partir avant qu'on te fasse partir. Et j'ai mon sketch, vraiment, c'est même plus du sketch.
C'est drôle ce que fait Titoff, le fait de partager la scène avec une inconnue qui a la moitié de son âge. C'est assez gonflé, en fait. On fait jamais ça, normalement. Quand on est humoriste pour faire du one-man show, pour être toute seule.
Alors, je peux répondre, et puis après je vais parler à Titoff, parce que je parle beaucoup. Mais c'est quand j'ai vu ce spectacle au théâtre des 10h, c'est formidablement écrit. Là, on a un Titoff qui est... Quand je dis comédien, c'est pas pour... comme s'il y avait des grades. Ouais, maintenant, il est comédien. Non, c'est quoi, comédien? C'est simplement interpréter, vivre et être au service d'un texte. Et quand... c'est pas les 20 ans d'écart, ce que je disais tout à l'heure, mais les deux univers. Il y a deux univers qui se confrontent et deux personnes qui s'aiment dans des univers différents.
Puis c'est sympa, les dialogues, le ping-pong. J'avais envie un peu de faire un petit break avec le « Oui, alors, la dernière fois, j'étais là, je suis parti, je suis revenu. » Et donc,
ça
voilà.
Ça arrivait 100 fois.
Oui. Je ne l'ai pas raconté. Et non. Et sans être avec les contraintes du théâtre. Bon, j'aime beaucoup ça. Hein. J'ai eu la chance de jouer dans quelques pièces.
Ça reste
pièces.
Un spectacle d'humour.
On reste avec un très beau décor que
et
Patrick
a mûr.
Chez ta tante. Hein, c'est ça, tu l'as pris chez une tante.
Non, absolument, elle nous l'a fait un très bon prix.
Design.
Eh bien, mon cher Titoff, vous allez nous emmener en balade avec vous. On va laisser Patrick Timsit dans le 16e arrondissement.
Il est bien là, il est bien.
Et je me sens bien, moi.
Voilà.
Je me sens accepté. Je me sens dans mon monde. Et eh oui, monsieur Tadé.
Et on va retourner dans le sien.
Ouais, ça, c'est moins parisien que le café de Flore, hein, c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est le sixième.
On va retourner dans le sien.
Il veut quitter la France, il veut quitter le sixième, surtout. Il changerait d'arrondissement, il aurait l'impression de quitter la France. Hein.
Non, on va
j'ai jamais habité Rive-Gauche, je vous rassure, Titoff.
Ah, merci.
Oui.
On va.
Vive la Rive-Droite.
Je n'ai pas capté.
Mais non, il est marseillais, lui, il n'a pas ces petites nuances.
Lui, il habite où on veut de lui, où on veut bien de lui,
dans le Marais. Dans le Marais, on veut de moi.
Voilà.
Ils sont très tolérants. Et je salue les gens du Marais pour leur courage et leur engagement. Et je les soutiens, et nous sommes derrière eux.
Et bien, nous.
À côté.
Dans le Marais, avec Titoff.
Très bien.
On se retrouve là-bas.
Et je peux vous dire qu'on nous attend.
Europe 1, 11h30, en balade avec Titoff. Frédéric Taddeï.
Titoff est parisien depuis pas mal de temps maintenant, alors il a décidé de nous faire découvrir son quartier pour la suite de sa balade avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes à présent sur votre territoire, Titoff, dans votre quartier. On est rue des Archives, dans le quartier homosexuel de la capitale.
Eh oui, c'est il paraît.
Vous étiez aperçu de rien.
Non, ça fait 10 ans que j'habite dans ce joli quartier. C'est un village, c'est un vrai village. Et effectivement, j'ai eu un doute concernant certaines personnes. Mais non, c'est un village et c'est un vrai bonheur d'habiter ici. Et il y a plein d'endroits vraiment sympas. Il y a quelques voitures dans cette rue-là. Mais après, on est carrément dans des petites ruelles.
Là, devant nous, il y a l'église luthérienne des Billettes.
Oui, c'est ça.
La paroisse protestante. Et juste en face, le Cox.
Le Cox, qui est un...
Tout rouge. Qui est un établissement bien connu, mais qui n'ouvre que le soir.
Voilà, exactement. Avec pas mal de, on va dire, de garçons. Hein. Vraiment, c'est un haut lieu de quartier, parce que je sais que le Cox, il y a une époque où vraiment... C'est un lieu qui a vraiment lutté contre...
L'homophobie,
il y a eu des sittings, il y a eu pas mal d'actions à une certaine
d'ailleurs là
époque.
Il y a une plaque rue des Archives avec le drapeau arc-en-ciel, le drapeau
oui.
De la cause gay. Il y en a beaucoup disposés sur les façades des
même
restaurants.
Les passages cloutés, sont
arc-en-ciel.
Ça veut dire qu'en fait on peut traverser. Et on ne risque rien du... Aïe. On ne risque rien du tout. Là on va aller...
Je vous suis.
Voir un de mes meilleurs amis, qui est Fred, qui a plusieurs établissements ici. Vous voyez, là, par exemple, on est... Merci. C'est super. Ils nous ont laissé passer. Il n'y aurait pas eu le drapeau arc-en-ciel. Je pense qu'on nous aurait écrasés. Mais là, d'un coup, là, c'est l'amour, la paix, le partage. Donc, on va aller voir mon ami Fred, qui a plusieurs établissements dans le quartier, qui est vraiment un de mes meilleurs amis.
Et il n'y a pas d'ostracisme envers les hétérosexuels comme vous ?
Oh non, mais une fois qu'il y a un rapport sexuel, je veux dire, on est tous logés à la même enseigne. Qu'est-ce que l'hétérosexualité, Frédéric ?
C'est vrai.
Vous avez déjà posé dans vos émissions avec beaucoup d'intello, tout ça, est-ce que vous avez vraiment déjà abordé ce sujet ?
Et on pourrait demander pourquoi on est devenu hétérosexuel. On pose la question, pourquoi êtes-vous devenu homosexuel ? Mais on pourrait retourner la question.
Europe 1, 11h30, en balade avec Titoff. Frédéric Taddeï.
Frédéric, comme Frédéric, je te présente Frédéric.
Frédéric, voilà. Enchanté.
Frédéric, un très bon ami.
Bonjour Frédéric.
Un très bon ami. Alors on est où, c'est tout ça,
Voilà, ça vous êtes au Ouz.
Tout se passe bien.
Vous m'avez fait ouvrir le Ouz de bonne heure. Hein.
Ben oui. Et puis c'est un endroit qui est ouvert toute la nuit.
Non, mais je suis très content parce qu'à l'inauguration du Ouz, déjà, c'est M. Taddeï qui m'avait fait une interview.
C'était dans marqué. Paris dernière, à l'époque.
Voilà, on vient enfin de tout ouvrir. On a mis 7-8 ans. C'est pour dire que ça nous a pas porté bonheur.
Plus que ça.
Ça ne se voit pas, le temps glisse sur vous.
Est-ce que le Marais est-il toujours le Marais que vous avez connu et quasiment fondé à l'époque?
Non, je ne l'ai pas fondé, ça serait très prétentieux. En tout cas, on est encore là. Non, c'est plus pareil.
C'est vrai, qu'est-ce qui
on est là, on a encore des poches de résistance, il suffit de regarder autour de nous. Non, ça, c'est plus un groupe LVMH que le Marais. C'est comme ça, ça fait pas. On est attiré, donc on a un peu. On essaie de résister, de faire un peu d'humour, de se faire remarquer, de garder nos espaces. Mais voilà, c'est plus le territoire qui nous était réservé. Hey. On fait un peu au jour le jour. C'est compliqué. Politiquement, c'est compliqué. Parce qu'en plus, on n'est plus aimé comme avant. Il y a plus. Le quartier a changé. Ouais. C'est compliqué avec les rapports et tout. Avant, on nous laissait un peu vivre, un peu faire. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on a eu quelques années un peu plus sereines. Une parenthèse enchantée. Et là, maintenant, voilà, ça revient. On nous embête beaucoup dès qu'on n'est pas dans les clous. L'intérêt du quartier Gex, c'est que c'est un quartier différent.
Oui.
Voilà, ça devient plus classique. Mais je ne sais pas si on aura le courage d'aller dans une autre rue, quoi.
Oui, c'est ça.
À Paris, c'est compliqué. Les Parisiens deviennent chiants.
Il y a des gens qui viennent du monde entier pour venir dans ce quartier.
Ils viennent voir le Marais. Souvent, les Chinois qui viennent ici, ils viennent plus voir le Marais, c'est-à-dire le Moyen-Âge à Paris, plutôt que le quartier.
On a quand même encore une clientèle très internationale. Il y a encore des gens qui viennent dans des établissements quand même pour faire des rencontres, voir. Moi, je suis le premier quand je vais à l'étranger. Ce qui est formidable quand on est un touriste gay, c'est qu'on cherche, tiens, où on va, on commence par les bars, on commence pas par les musées, mais vous allez rencontrer non seulement parce qu'une bonne nuit, il va tout vous faire visiter la ville. C'est une vraie chance touristiquement quand on voyage, d'avoir des lieux de rencontre.
C'est vrai, on se fait des amis
dans le premier soir,
on se fait
des bons camarades et qui vous font visiter la ville, la nuit, les rencontres.
On peut faire la même chose en étant hétéro, en fait.
Plus difficile.
Déjà parce que ces endroits segmentés, qui sont segmentés encore pour des raisons économiques, sociologiques, les gens se regroupent par. Non, là, on va tous dans les mêmes endroits, quels que soient les niveaux sociaux.
Non, mais dans tous les cas, en fait, tout est en train de se. On tous se ressemble de plus en plus, à Saint-Germain, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus un grand magasin à ciel ouvert avec que des boutiques de luxe. Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est un peu le cas de tous les centres-villes, de toutes les grandes villes du monde.
Il faut un peu d'humour. Bah, je ne sais pas si vous avez vu au Fridge qui est devant le Hit Italy. Là. On a refait une fausse enseigne pour l'anniversaire, on a mis Hit My Ass. On a trouvé ça drôle. Mais même
c'est
eux,
pas italien, quoi.
Personne n'a rien à nous dire. Il y a une espèce de résistance. On met en façade des mecs qui s'embrassent, en disant bon, on est encore là. Quoi. Donc on est. On va essayer de tenir le coup.
Merci, Frédéric.
Salut.
Ben, je serai là dès que vous fondez un nouveau.
Ah voilà,
dans
une nouvelle rue.
Une nouvelle rue, une nouvelle colonie.
Tu prends le micro, s'il te plaît.
Je vous rends d'accord.
Bisous.
Ciao.
Merci beaucoup.
Eh bien, on va retourner dans la rue où il pleut. Écoutons Walking in the Rain par Flash and the Pan.
Frédéric Taddeï se balade avec Titoff sur Europe 1.
Walking down the street. Chicken cans. Looking at the billboard. Also ran. Summing up the people. Checking out the race. Doing what I'm doing. Feeling out of place. Walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to a conclusion. Right is might. Is tight. Walking in the rain. Come in all you jesters. Enter all you fools. Sit down, no. Fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking in the rain. Walking.
C'était Flash on the Pan qui interprétait Walking in the Rain. Et oui, il pleut.
Europe 1, en balade avec Titoff. Frédéric Taddeï.
Depuis le 3 octobre, Titoff partage l'affiche du spectacle Amoureux. Alors bien sûr, Frédéric Taddeï veut en savoir plus sur ce que représente l'amour justement pour lui.
Nous sommes en balade avec Titoff dans le quartier du Marais, son quartier. Vous jouez au théâtre de la Gaîté Montparnasse Amoureux. C'est l'histoire d'un couple amoureux, mais 20 ans les séparent. Vous pensez que le fossé des générations existe plus qu'on ne croit ?
Franchement, non. C'est carrément le sujet de mon spectacle. On a 20 ans d'écart, mais à aucun moment on parle de d'écart d'âge dans le spectacle.
Oui,
parce surtout, que franchement, ça ne se, les 20 ans d'écart, enfin, je veux pas.
Bon, ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas du tout. Enfin, tu trouves Non, non. Personnellement, je vois pas du tout la différence d'âge, quoi. J'ai 47 à la 27. Puis
c'est le privilège de l'âge, ça.
Ben non, 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 mais je pense qu'on est dans une évolution de la société où plus personne ne vieillit, quoi. Il n'y a plus que les vieillards, en fait. Jusqu'à 80, j'ai l'impression qu'on est tous jeunes.
C'était
en fait,
drôle,
je t'espérais, parce que moi, en fait je suis marié depuis 15 ans avec mon épouse, on a 3 ans de différence, 3 ans de moins que moi. Et c'est un vrai bonheur déjà d'avoir écrit ce spectacle et puis de le jouer. Parce qu'il y a une vraie évolution de la société. Moi, j'ai plein autour de moi, il y a plein de couples. C'est vrai qu'on ne fait pas gaffe à la différence d'âge. Alors que ça va de 7 ans de différence jusqu'à des fois, il y en a 30 et tout ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution.
Autrefois, on parlait tout le temps du fossé des générations dans les années 60. Les parents ne comprenaient plus du tout leurs enfants. Aujourd'hui, ils écoutent la même musique, ils dansent sur les mêmes chansons, ils s'habillent pareil.
Ben oui, je crois qu'il y en a même qui font la fête ensemble. Ça c'est. Après le cœur du spectacle, tout justement, il est sur ça. Il y a l'amour, mais c'est vrai que parfois, des enfants font un refus avec les parents parce qu'ils les saoulent, parce qu'ils sont toujours un peu sur le reproche, tout ça. Donc là, on est dans un cas où, bon, ben là, c'est l'amour vraiment qui est dit. Mais sur toutes les failles, tout ça, les situations dans la pièce, elles sont chaque fois en fait sur la différence au-delà de la différence d'âge, elle est plutôt sur la différence de mentalité et d'univers.
Vous en parlez comme d'une pièce, mais c'est vraiment un spectacle d'humour. Ce sont des sketchs, quasiment.
Ouais, des tableaux. En fait, j'avais envie de faire des dialogues très efficaces. Bon, apparemment, c'est plutôt réussi. Et sans s'embarasser des décors. Alors, c'est très joli, parce qu'avec Patrick Timsi, a fait vraiment un petit décor, vraiment avec des fauteuils modulables. C'est très élégant, avec une belle lumière. Et du coup, chacun y retrouve son salon, on va dire. Mais après, à la différence qu'on n'a pas les contraintes du théâtre de boulevard un peu poussiéreux, ça va très vite, ça s'enchaîne très vite, on passe d'une situation à l'autre, que ça soit d'un départ en week-end à Blablacar, d'une dispute, parce que l'autre spoil la série télé préférée. Enfin, jusqu'à...
Ça, c'est quelque chose que vous m'avez fait remarquer quand j'ai vu le spectacle à sa création. Au théâtre de 10 heures à l'époque, oui. C'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de fidélité conjugale à regarder ensemble les séries. et surtout, pas qu'il y en ait un des deux qui commence à prendre de l'avance.
Ah ben oui. Bon, moi, c'est carrément ça pour le coup. C'est-à-dire que le plus drôle, c'est pas quand la personne veut spoiler volontairement. C'est quand elle spoil, mais inconsciemment. C'est tellement régalée à voir l'épisode qu'elle veut vous faire partager. Elle est impatiente de voir votre réaction. Et c'est terrible. C'est un moment où vraiment on sent dans la salle où c'est un vrai fait de société où les séries sont rentrées dans le quotidien des gens en général et des couples.
Europe 1, 11h30, en balade avec Titoff. Frédéric Taddeï.
Voilà, il a suffi de s'éloigner un peu de la rue de Rivoli et tout à coup on est dans le calme de la rue François Miron.
Là, on est dans un des plus vieux quartiers de Paris.
D'ailleurs, c'est
et avec des plus vieilles immeubles.
Maison à colombage qui date du Moyen-Âge, dit-on. Et c'était un club échangiste, d'ailleurs.
Et ça l'est toujours.
Ça l'est toujours.
Ouais.
Et alors, c'est très drôle parce qu'il y a toujours beaucoup de touristes qui regardent cet immeuble sans savoir peut-être que c'est un club échangiste.
Et voilà, on est devant le Pamela Popo.
Qui est un bar, restaurant. Vous avez vos habitudes ?
Oui, j'adore. Franchement, je traverse Rivoli, je passe de l'autre côté du marais. Puis ici, j'ai plein d'amis, j'ai des amis marseillais. Donc, voilà, venir à Paris. Et parisiens aussi. On se retrouve là, c'est vrai, quand les bonnes périodes, quand il y a un peu un rayon de soleil, moi, je suis toujours preneur.
Il y a une belle terrasse.
Il y a une belle terrasse. Et puis surtout, c'est un endroit assez... on mange bien et puis très sympathique. Mais après, dans la rue aussi, bon, en général, c'est pas Pamela Popo, mais aussi un italien. Il y a aussi un restaurant de saumon, là. Et franchement, on est bien. On est à deux pas de l'île Saint-Louis. C'est très agréable.
On se retrouve dans un instant avec Titoff dans le Marais.
Europe 1, en balade avec Titoff.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï et l'humoriste et comédien Titoff bravent la pluie pour une balade parisienne. Une balade qui continue tout de suite dans le premier arrondissement et où ils reviennent tous les deux sur les changements visibles entre les différentes générations.
Nous sommes avec Titoff en balade dans le Marais. Il y a une nuée de jeunes femmes à vélo avec des imperméables car il pleut. Et vous tapotez sur votre portable.
Oui.
Vous êtes un esclave du portable, non ? Du téléphone portable ?
Franchement, non.
Non ?
Je me fais engueuler tout le temps par mon attaché de presse. Mais il me dit, tu devrais être plus sur les réseaux sociaux. C'est important, les réseaux sociaux. Oh, bon, j'aime bien ton, je regarde un petit peu ça. Mais c'est vrai que je crois que je suis encore un peu vieille génération.
Et dans votre spectacle, vous insistez sur le fait que vous avez vécu dans les années 90.
Ouais.
Donc vous avez mangé de la viande rouge, vous avez fumé dans les bars et dans les restaurants.
Ah ouais.
C'est une autre culture.
Ah ben c'est une autre époque.
Et là, il y a un fossé des générations, là. Mais par l'expérience.
Oui. Puis là, il y a vraiment, là, dans la salle, pour le coup, ce passage-là, quand je dis que moi, quand j'étais enfant, on accompagnait la viande avec de la viande. Que j'ai jamais vu une courgette sans qu'elle soit farcie à chair à saucisse, une endive sans jambon, jamais. Tout ça, je dis que Jacques Martin me manque. Je dis que je veux que les femmes aient des poils à la chatte. Je craque parce qu'elle me filme en cachette. Elle trouve ça normal, elle fait un buzz, elle me poste ça sur les réseaux sociaux. Donc, bon, voilà, comme je joue mon propre personnage dans la pièce, je m'énerve un petit peu. Et après, là, d'un coup, c'est comme j'étais en train de dormir, c'est comme ça arrive des fois dans la vie, c'est quand. Le plus drôle, dans l'énervement, il y a souvent, on sort des pépites, j'ai écrit ce passage-là dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que c'est dans les disputes, dans les énervements où les idées dépassent le cerveau.
Vous montrez bien qu'il y a encore pas très longtemps, quand un homme sortait avec une femme plus jeune, il avait l'impression qu'elle était la candeur et l'innocence. Et qu'aujourd'hui, ça a complètement changé.
Ça aussi, j'aime pas ça.
Les filles jeunes aujourd'hui, c'est forcément cocaïne, gangbang, Tinder, film porno, quand elles n'ont pas carrément une aventure avec un type qui est devenu djihadiste.
Elle a deux doigts de se convertir, mais elle a tapé en train de bouffer une andouillette avec sa cousine anorexique. Bon, l'effet, il est surtout dans la décontraction de lorsqu'elle dit oui, mon addiction au gangbang, tout ça. C'est-à-dire que pour elle, l'humour repose sur le fait qu'en fait, elle trouve ça tout à fait normal, quoi. Et ça, franchement, on va pas faire de généralité, mais.
Surtout pas.
C'est vrai qu'il y a une approche, on va dire. Je crois qu'ils appellent ça, les sociologues appellent ça la génération YouPorn, ça. Il y a une approche, apparemment, moi, je ne sais pas. Je me suis documenté, mais il y a une approche complètement différente avec les rapports sexuels.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'on a toujours dit ça à toutes les générations ? Depuis quelques générations, en tout cas.
Oui, c'est parce qu'apparemment, moi j'entendais toujours qu'en 68, ils se sont éclatés comme des fous. Là, on parlait de la libération sexuelle. Et ce qui a changé, c'est que vraiment, en plus, je voulais 20 ans d'écart, je ne voulais pas être avec une gamine. 27 ans, voilà, c'est déjà une jeune femme, on va dire. C'est pas une petite nana de, on va dire de 20 ans. Là, moi, c'est pas l'histoire que je voulais raconter.
Vous jugez
pas. La personne est adulte. Je juge pas, mais en fin de compte, c'est bon. En tout cas, c'est pas l'histoire que je voulais raconter. Mais il y a quand même 20 ans d'écart. Il y a quand même des habitudes. Et justement, sur les années 80, moi, d'ailleurs, dans mon public, j'ai eu droit à mes premiers mes parents vous adorent. Vous voyez, et ça, c'est nouveau pour moi. J'étais dans les années 2000 l'icône un peu de l'adolescence, de la jeunesse. Et puis bon, ben voilà, je suis toujours là, 20 ans après. Et j'ai droit, mes parents vous adorent, je me fais une photo pour mes parents. Il n'y a pas de mal. Mais donc, voilà, dans cette génération-là, les moins de 25, autour de 25 ans, on va dire que, sans être des gamins, il y a quand même, voilà, dans les années 80, ils n'étaient pas nés. Et donc, il y a tout un fantasme autour de, justement, c'était moins pollué. C'était plus cool dans les années 80, ainsi de suite. Et donc, ça fait des. Voilà, ça a la possibilité à beaucoup de dialogue.
C'est pas non plus. Vous auriez pu faire la jeune bimbo et le vieux beau. Vous n'avez pas voulu non plus. Hein.
Alors, le vieux beau, non. Franchement, il y a des pièces qui. Certaines pièces, ça a été très bien traité. Voilà, c'est un registre. Mais moi, je voulais pas. D'ailleurs, je me suis vraiment beaucoup donné de mal. J'ai co-écrit le spectacle avec Amélie Borges, qui est devenue une. Personne très très proche et qui est vraiment beaucoup de talent. Et le but du jeu, c'était moi, je voulais pas du tout, je voulais mettre le personnage de la jeune femme de ma compagne dans la pièce, vraiment en avant, qu'elle s'exprime bien, qu'elle soit cultivée, qu'elle ait sa propre culture, mais qu'elle soit. Et que souvent, comme souvent dans la vie, l'humour vienne de petites faiblesses ou justement d'anachronismes, de choses comme ça. Mais par contre, elle s'exprime très bien, elle est très vive. Sauf qu'elle est obsédée par son image et par son smartphone.
Nous sommes place des émeutes de Stonewall. Stonewall, c'est là où les LGBT s'étaient rebellés à New York contre la police. C'est une date historique. On lui a consacré une place dans le Marais. De même qu'il y a une plaque à la mémoire de Gilbert Baker, l'artiste américain. Vous le connaissiez, Gilbert Baker ?
Gilbert Beco, oui.
Gilbert Baker.
Gilbert Baker, non, mais apparemment, c'est le créateur du drapeau des fiertés.
Le drapeau gay.
Mais il n'y a pas toutes les couleurs, j'ai l'impression, sur cette bague.
Si, il y en a bien plus que sur les passages cloutés, d'ailleurs. On passe devant Italy. It, ça s'écrit E-A-T, comme manger. C'est le nouveau temple de la gastronomie italienne qui a ouvert cette année. Ils en ont fait un truc tellement grand, ça donne envie d'écouter L'Immensità par Gianna Nannini. Vous connaissez ?
Non, je connais Eros Ramazzotti. C'est pasta su una grande canzone qui parla.
No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che il personaggio c'era, insomma, doveva sentire la voce.
Io son sicura che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà. Io lo so. Tutta la vita sempre sola non sarà. Per me che sono nullità, nell'immensità. Nell'immensità. saprà di essere un piccolo pensiero nella più grande immensità. Il suo cielo nell'immensità, nell'immensità.
C'était l'immensité chantée par Gianna Nannini. On se retrouve juste après une pause avec Titoff, toujours dans le Marais.
Comme chaque dimanche, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï et son invité. Aujourd'hui, c'est l'humoriste et comédien Titoff qui vous fait découvrir son quartier. Titoff qui est à l'affiche en ce moment du spectacle Amoureux au Théâtre de la Gaîté Montparnasse.
Nous revoilà avec Titoff, toujours dans le Marais, il y a des travaux. Vous êtes en arrêt devant une devanture.
Ben oui, on est devant l'endroit de part de mon ami. Hein, et c'est vrai qu'ils ont fait un petit clin d'œil à Italie, ils ont mis « Eat my ice ».
Ouais,
ice comme glace ice, et puis hein, voilà, il y a une belle affiche avec un jeune homme en train de manger une glace à deux boules. Je crois qu'on est dans le vrai clin d'œil. Je pense que dans les
qu'on est sur votre territoire,
hein. c'est mon quartier et ben, je crois qu'on est dans un bon voisinage entre Italie et
vous êtes bien intégré à Paris quand vous êtes arrivé de Marseille.
Alors franchement, au départ, je vivais beaucoup la nuit. J'ai fait comme dans les séries télé, Friends, tout ça. On était en coloc dans un grand appartement dans le 10e arrondissement, rue d'Hauteville. Et puis bon, il y avait beaucoup de passages, hein, beaucoup de passages. J'étais un peu paumé, ça me manquait, la mer me manquait. Je savais jamais où j'étais, je comprenais jamais de quel côté de la Seine j'étais. Et puis là, il y a un peu plus de 10 ans, quand je suis arrivé dans ce quartier, franchement, ça a changé ma vie parisienne, parce qu'il y a vraiment, il y a plein d'endroits vraiment intéressants. J'ai beaucoup d'amis, j'ai l'impression d'être dans un petit village et je fais mes courses, moi je cuisine beaucoup, donc après voilà, la rue Rambuteau, il y a tous les commerces de bouche, donc voilà, super boucher, super marchand de légumes, et donc voilà, j'adore cuisiner aussi bien juste pour ma petite famille que pour les amis.
Vous ne faites pas du tout attention à votre ligne.
Eh bien, figurez-vous que je vais commencer, j'ai arrêté de fumer il y a un an, j'ai pris 12 kilos et comme je devais déjà en perdre 5, mais là, ça y est, là maintenant, ça y est, ça fait un an, donc psychologiquement et puis même au niveau de, comment dire, du sevrage, c'est une sacrée aventure d'arrêter de fumer. Hein, donc,
Là, on est devant un sex shop, mais un sex shop hétérosexuel, le passage du désir.
Oui, oui, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne.
La boutique de cadeaux des amoureux.
Europe 1. En balade avec Titoff, Frédéric Taddeï.
Là, à 50 mètres de nous, il y a le point virgule.
Ouais, mythique.
Un tout petit théâtre.
Café-théâtre. Hein, il y a le Café de la Gare aussi, le premier café-théâtre créé en France par Coluche.
Romain Bouteille. Romain Bouteille était la première fois que vous êtes monté sur scène. Il y avait Romain Bouteille dans
oui,
la salle.
Oui, oui, oui.
Et qu'il est venu vous féliciter.
Oui, c'était génial. J'avais même collaboré, j'avais participé à il faisait un théâtre avec, vous savez, sans texte, avec des oreillettes, en fait, où quelqu'un nous soufflait, les souffleurs, c'était dans l'oreillette. C'était assez sympa, parce que quand à un moment, le mec te soufflait le texte, et puis d'un coup, il te soufflait n'importe quoi, c'est sympa. Et puis, ben, en fait, sans savoir que j'allais habiter ici, des années plus tard, c'est vrai que j'avais fait un petit passage au point virgule dans un festival. Et ça, il y a bien longtemps.
Le point virgule, c'est un tout petit théâtre. Mais... je me demande même s'il y a des loges. On est obligé de passer par le public pour monter sur scène, non ?
Oui, le public est quasiment sur scène, quoi. Donc c'est super, mais pour toute la nouvelle vague des stand-uppers, c'est un endroit magique, parce qu'on est au milieu, puis il n'y a pas de souci pour vraiment pour le remplissage, parce que même si la salle n'est pas pleine, on est quand même dans un lieu tellement petit que...
Il y a tout le temps des séances, toutes les heures. Ça change. Hein.
Oui, je pense que là, il y a plus d'humoristes que d'habitants dans le quartier.
Vous, je me souviens, vous avez été le premier en France à faire du stand-up. vous n'en étiez même pas conscient, d'ailleurs, je vous l'avais fait remarquer. Ouais. C'était il y a une vingtaine d'années. Et vous m'aviez dit que c'était juste parce que vous ne saviez pas comment finir vos sketchs, alors vous les enchaîniez.
Exactement. Puis bon, je jouais beaucoup sur le Vieux-Port. Il y avait des cafés-théâtres, mais il y avait aussi des restaurants. Et donc, bon, ben voilà, hein, il y avait une poursuite, une petite estrade, un micro... Et donc, bon, quand même, il n'y avait rien d'autre, il fallait bien enchaîner. J'ai appris, c'est Dominique Farrugia qui m'a dit, tu sais que tu fais du stand-up. J'ai dit, écoute, franchement, je suis ravi de l'apprendre. Et puis, c'est surtout le but, c'était surtout d'être très efficace, d'avoir le fameux rythme, voilà, quasiment un rire à chaque phrase et tout ça.
Et aujourd'hui, vous revenez au sketch, au fond. Vous appelez ça des tableaux. Mais vous revenez au sketch,
ouais.
Vous êtes toujours d'avant-garde, au fond.
Non, mais franchement, non, mais là... Il y a eu quand même toute une histoire autour de moi. Je suis du bon côté puisque c'est moi qui ai été plagié. Mais franchement, c'est une sale histoire. Et j'ai trop de respect, trop d'amour pour mon métier. Et puis je me suis tellement quand même fait chier à y avoir des idées et à écrire des sketchs plutôt que copier. Donc là, voilà, ça fait du bien. Des dialogues. Puis les dialogues, c'est les dialogues. Il y a le stand-up, on est toujours. Quand on voit l'humour, pour moi, c'est souvent la surprise, la rapidité. Et c'est une vraie émotion, c'est une émotion qui est géniale parce que quand on rit, ça fait un bien fou, tout simplement, sans se prendre la tête. Et je pense qu'au bout d'un moment, la mécanique du stand-up, là, il y en a tellement nombreux que j'avais envie de changer de mécanique. Et dans des dialogues, il y a aussi du visuel et puis aussi la réaction. Il y a souvent la phrase de l'un, c'est la réaction de l'autre qui fait rire et on rentre dans un autre rythme. Et là, franchement, c'est pas pour dire, mais j'ai retrouvé un rythme où c'est pas. Enfin, vraiment, ça rit du début jusqu'à la fin de la pièce. Ou du spectacle, donc je suis plutôt très, très heureux.
Là, il y a la galerie Azedine Alaïa qui tend les bras, un endroit que vous aimez bien, je crois.
J'adore.
On s'y retrouve juste après les infos.
Europe 1, en balade avec Titoff. Frédéric Taddeï.
Nous sommes 18 rue de la Verrerie, dans la galerie Azedine Alaïa. Grand couturier est mort en 2017, c'était son lieu de travail depuis la fin des années 80. Ça avait été décoré par Julian Schnabel. Il y a plusieurs milliers de mètres carrés, ça a été transformé en lieu d'exposition de ses créations. Mais il y a aussi des créations de tous ceux qu'il aimait.
Super bibliothèque aussi de mode.
Une bibliothèque, on dit plutôt une librairie, vous savez.
Non, c'est... Ah bon ?
Ah oui, il faut acheter les livres.
Quand il y a des livres. Oui. On ne peut pas les emprunter, mais
je me suis renseigné
pour, je sais pas, une carte.
Donc là, nous voilà dans la librairie.
Comme je te disais, on est dans la librairie.
Oui.
Et voilà.
Qui n'est pas une bibliothèque.
Non, j'adore venir avec ma fille, c'est une toute petite, mais elle adore la mode. On est très manga et mode. Alors, la mode. Voilà. Bonjour. Et là, je vois, mais c'est Roxane.
Bonjour, c'est Roxane.
Bonjour.
Restez assise.
On me lève quand même pour.
Roxane, qui est juste sous un portrait d'Azedine Alaïa, d'ailleurs, attablé, puisque ça fait aussi salon de thé, hein, ici. Alors, c'est vous qui partagez la vedette avec Titoff.
C'est moi.
Dans Amoureux.
Eh oui. Je suis ravie.
Je lui disais, c'est pas souvent qu'un vieux comique, enfin, un ancien comique, je sais pas comment vous l'appelez.
Il avait le spectacle.
Je l'appelle comme ça, ouais. Je l'appelle même plus Titoff maintenant.
Partage la vedette avec une inconnue ou quasiment une inconnue.
Oui. J'ai beaucoup de chance parce que Titoff m'a fait confiance. On s'est rencontrés au théâtre. Je le connaissais pas avant. Et il a pensé à moi, il m'a fait passer l'audition, ensuite avec Patrick, avec Richard Kaya.
Patrick Timsit, qu'on a
Patrick
vu tout
Timsit,
à l'heure.
Patrick Timsit, oui. Et ils m'ont fait confiance, donc j'ai eu beaucoup de chance.
Et ça vous amuse
Beaucoup. Bah oui, déjà le texte est très drôle, donc c'est une pépite à jouer. J'ai de la chance parce que pour une femme, c'est très très agréable de pouvoir défendre un texte comme ça et pas juste jouer les... Bah, les potiches.
En plus, vous avez le beau rôle, moi, je trouve.
J'ai le beau rôle, oui.
C'est vrai. Non, mais il aurait pu vouloir tirer la couverture à lui, les compliments et les rires. Non, il a été...
Non, pas du tout, ouais. C'est non. Très, très bien distribué. Et donc, voilà, le texte est super. Et puis, voilà, un duo comme ça sur scène, en plus mis en scène par Patrick Timsit... Là aussi, c'est une chance incroyable de pouvoir travailler avec lui. Il a plein d'idées, il est très, très... C'est un génie, quoi.
Mais alors, parlons de fossé des générations. Est-ce qu'il y a des blagues qui vous font pas rire du tout? Est-ce que c'est des blagues de vieux?
Alors, j'ai pas envie de me faire tout de suite virer.
Dire que franchement, elle a beaucoup... C'est une vraie guerrière dans le bon sens. Parce que, bon, déjà, sur les essais, elle a été géniale tout de suite. Donc j'ai dit, bon, ben voilà, moi je crois. Puis le côté au fait qu'elle ne soit pas, entre guillemets, connue, je trouve que c'est un avantage parce que le public découvre quelqu'un, et c'est vrai que c'est très très gratifiant pour elle, parce qu'à la fin tout le monde entend dire waouh, elle est géniale. Voilà. Et après, en ce qui concerne Patrick et moi, c'est-à-dire qu'on est quand même deux hyperactifs. Et bon, ça fait très longtemps qu'on fait ce métier, donc on a un peu des façons de parler. Alors là, voilà, tu fais une rupture, là tu fais péter la vanne, tu es tout tendu, pas tendu. Et elle était là et elle voulait pas nous, vexer, mais on s'est rendu compte au bout de quand même quelques jours, hein, je crois, qu'elle ne comprenait strictement rien à notre vocabulaire de vieux. Parce que moi, ça fait quand même plus de 20 ans, enfin, ça fait 20 ans que je suis arrivé à Paris. Et bon, et Patrick, il a commencé quand même avant moi. C'est assez, quand on s'est rendu compte, on s'est dit, bon, on est désolé. Tu aurais pu nous le dire, oui, on dit, mais non.
Très poli. Hein.
Il y a eu des trucs qu'ils voulaient vous faire dire, vous n'avez pas voulu?
Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, non, parce que justement, c'est très bien écrit, c'est fin, il n'y a aucune ni vulgarité, ni. Voilà, pas du tout. Non, le texte, non. Mais c'est vrai qu'effectivement, au début, on ne se comprenait pas tout le temps très bien, quoi. Déjà parce que Titoff est comédien, mais il est humoriste. Et que, bon, bah, moi, je suis surtout comédienne, et c'est vrai que c'est pas le même vocabulaire.
Vous l'avez joué combien de fois déjà?
9. J'ai compté.
9 en province.
9 parce qu'on en a fait.
C'est quoi votre réplique préférée?
Je spoil ou je spoil pas le spectacle?
Oui, tu peux y aller.
C'est que on parle de mon père et ce moment-là nous fait vraiment rire. Voilà, il dit qu'en gros il est bloqué. Voilà.
Je suis bloqué sexuellement.
Il est bloqué. Il a des pannes. Et moi je lui dis, mais attends, t'as que 2 ans de plus que mon père. Et lui, il me répond, bah oui, bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais bon, ça me bloque, quoi. Donc, c'est une réplique qui me fait beaucoup rire. Voilà, les 2 ans de plus que mon père, c'est rien, ça. On se marre pas mal à ce moment-là.
Eh bien, on va continuer notre balade. Merci, Roxane.
Bah, merci, j'étais ravie.
Et bonne rentrée au théâtre.
On croise les doigts, on se dit merde, et puis à bientôt à la gaieté, alors.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
De 11h à midi et demi, Frédéric Taddeï vous emmène en balade avec Titoff. Ils ont décidé d'aller dans un autre quartier parisien, le 6e, pour prendre l'air dans un très beau jardin. La route permet à Frédéric Taddeï de revenir sur la carrière de l'humoriste et comédien.
Nous sommes maintenant en voiture avec Titoff. Nous allons traverser la Seine, direction le jardin du Luxembourg. Quand on regarde votre carrière, on voit bien que la télévision, la radio vous ont été utiles. On peut faire une carrière d'humoriste sans en passer par là, d'après vous?
Aujourd'hui, oui. Moi, j'ai mon ami Camille Lelouch, qui a carrément, elle est un média à elle toute seule. Hein. Elle a,
grâce à Internet.
Elle est sur Instagram, je crois qu'elle a près de 2 millions de followers. Donc je pense qu'il y a certaines vidéos qui font plus d'audience que
les émissions.
Que les émissions de télé. Donc voilà. Et puis, bon, mais il y a une partie. C'est ça a beaucoup changé, le rapport à la notoriété a beaucoup changé, parce que la globalisation se fiche. J'ai vu un reportage extraordinaire avec George Michael où il disait que voilà, il faisait partie des dernières stars enfin, mondiales, avec Madonna et Prince et Michael Jackson. Et il disait que c'était un monde qui allait s'arrêter sur la globalisation. Voilà,
depuis Rihanna, il y a eu Beyoncé.
Ouais, il a dit n'importe quoi, en fait. Ça. Non, mais là, par exemple, aujourd'hui, moi, par exemple, il y a 20 ans, quand je passais chez Ardisson, je passais chez Drucker, là, en quelques jours, la France entière, quasiment, vous connaissez. Alors qu'aujourd'hui, mettons Camille Lelouch, autant elle a presque 2 millions de followers, mais autant il y a, bon, maintenant moins depuis quelques mois, mais il y a eu une période où voilà, c'était assez partagé. Enfin,
oui, à l'époque on touchait tout le monde, maintenant c'est segmenté
on va dire.
Mais cela dit, on ne touchait pas les mêmes quand on était dans une émission de Thierry Ardisson, une émission de Michel Drucker, une de Jean-Luc Delarue ou chez Laurent Ruquier.
Oui.
Est-ce que vous ne faisiez pas les mêmes blagues? Est-ce que vous faisiez attention selon les publics?
Non, moi ce que je faisais, c'est que Thierry Ardisson m'engueulait parce que moi j'adorais faire, bon logiquement, hein, j'adorais faire rire le public sur le plateau télé, quoi. Les spectateurs, mais il me dit, mais non, tu sais, c'est ça. Je lui dis, adresse-toi à la caméra et tout ça. Donc des fois je l'énervais parce que l'émission était très très montée. Et puis c'est très bon, c'est des très très bons souvenirs. Mais après, quand il y avait des buzz ou des bons buzz ou des mauvais buzz, franchement, ça, on, tous les gens vous en parlaient. Les jours suivants, ils ne parlaient que de ça. Moi, je m'étais embrouillé sur le plateau de Laurent Riquet, qui est devenu après, bon, voilà, un très 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 bon ami. Et c'était, on a tout essayé. En fait, bon, ben, on s'était pas très bien compris, donc ça avait un peu, ça avait envoyé du lourd sur le plateau. Catherine Marma, qui était la productrice d'Ardisson et aussi de d'essayer dans la loge, je la connaissais très bien, elle faisait des bons, mais je te change d'horaire, je te mets au moment où il y a le plus d'audibat et tout ça, et c'est vrai que derrière ça avait fait un très 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 gros buzz parce que je m'étais pas laissé faire, donc voilà, c'était ça. Mais ce monde là n'existe plus, je crois.
Ah si, sûrement
encore.
Ah, j'imagine
la télé, les audits, enfin franchement, il n'y a plus comme ça d'émissions. On est au-dessus de 5 millions ou 6 millions de téléspectateurs. Je crois, ou alors il y a peut-être The Voice, des trucs comme ça, mais des talks.
Ou la Coupe du Monde de football.
Oui, mais alors là.
On va arriver au Jardin du Luxembourg. On va écouter J'aime Paris par Mireille Mathieu. C'est une adaptation d'un I Love Paris de Cole Porter.
Vous savez me faire plaisir.
Elle a le même accent que vous, en plus.
Oui, j'avais la même coupe de cheveux, enfin, qu'elle.
Frédéric Taddeï se balade avec Titoff sur Europe 1.
J'aime Paris, mon village. J'aime Paris, mon jardin. J'aime Paris en image dans ma chambre. J'aime Paris sous l'orage en septembre. J'aime Paris sur la Seine, du casino de Paris, sous la plume de tous les peintres de la butte et dans leurs yeux aussi. C'est un Paris de tendresse que je vous chante aujourd'hui. Un souvenir que me laisse des vacances, un grand amour de jeunesse plein de France. J'aime Paris, Notre-Dame, où je retourne aujourd'hui. Ici.
C'était J'aime Paris, chanté par Mireille Mathieu.
En live.
Europe 1, 11h30, en balade avec Titoff.
Frédéric Taddeï.
Jusqu'au 5 janvier, Titoff est à l'affiche du théâtre de la Gaîté Montparnasse avec son spectacle Amoureux. Et justement, quand il part jouer, il passe par un très célèbre parc parisien. C'est là qu'il a voulu terminer sa balade avec Frédéric Taddeï.
Alors pourquoi vous avez voulu qu'on termine cette balade par le jardin du Luxembourg, Titoff ?
Parce que j'aime la nature. J'aime. Non. Parce que, alors, en fait, c'est mon trajet, en fait, du théâtre de la Gaîté Montparnasse où on joue.
Jusqu'à
chez moi, dans le Marais. Et l'autre fois, j'ai eu un moment génial parce que, justement, le spectacle s'appelle Amoureux. Et là, je me suis souvenu que, des tours d'un petit chemin, là, j'avais. C'est avec mon épouse, hein, Tatiana. C'est la première fois où on s'était donné la main. Voilà. Bon, on avait fait déjà l'amour. Hein.
Ah oui, mais vous n'étiez pas donné la main.
Mais non. Et c'est vrai que c'est. Voilà, ça fait 15 ans. Et je suis toujours très amoureux d'elle.
Mais c'est là que vous lui avez demandé de vous épouser ?
Non, ce n'était pas la demande en mariage. Ma demande en mariage était complètement foirée.
Pourquoi ? Alors,
parce qu'il y avait encore. Vous savez, c'est les chéquiers. J'avais. Ami bijoutier, donc j'avais acheté la bague et en fait le chéquier traînait tout ça, il tombait sur le chéquier et vu que ça j'avais acheté la bague il y a quelques temps, elle s'est dit mais merde, il a acheté une bague et j'ai pas reçu de bague, donc il a forcément offert, enfin tu vois un peu le mec, enfin l'ordure quoi, le mec en plus il fait un chéquier, il achète une bague, il offre une bague à quelqu'un d'autre et elle s'est fait du parano comme ça. Et donc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, moi, du coup, j'ai été obligé de me marier avec elle. Et puis, bon, bah, écoutez, à partir de là, on a enfin pu commencer à avoir des rapports sexuels. Là, mais écoute, je vais me faire jouer parce qu'elle déteste. Elle déteste que je parle d'elle. Elle déteste que je fasse de l'humour comme ça. Mais,
c'est vrai que vous ne parlez jamais de votre femme dans vos spectacles.
Non, je tiens ma vie. Non, c'est. Enfin, non, c'est vrai que j'ai pas trop fait. Ça fait un peu le mec. Alors, je vais pas raconter ma femme. Alors, ça fait un peu Columbo sur scène. Alors, comme dit ma femme. Je crois qu'il y a des humoristes qui ont bien donné dans son registre. Je préfère parler d'autres aventures. Mais c'est beau, hein.
Ça l'a fait rire, Amoureux.
Oui.
Et l'idée que vous soyez avec une femme de 20 ans de moins que vous.
Comme c'est pour de faux. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, moi j'aime bien, déjà dans tous mes spectacles, j'ai toujours fait beaucoup d'autodérision. Là je fais parce que bon, je suis censé jouer mon propre rôle. Donc sur ma carrière, elle s'en donne à cœur joie. Parce que voilà, cette génération, elle a raté un peu quelques épisodes. Et donc elle pense que vraiment je suis connu uniquement pour Danse avec les stars. Donc voilà, ça, le public s'en donne à cœur joie parce que bon, voilà. Puis bon, c'est moi-même qui ai écrit ce genre de conneries. Hein. Puis progressivement. Il y a les deux côtés. Je pense qu'il y a c'est vraiment tout public, parce qu'on reconnaît toujours quelque chose. Puis après, il y a le choc aussi, plus que la différence d'âge dans le couple, il y a les habitudes, les générations. Et puis après, il y a aussi, franchement, qu'on soit un homme ou une femme, bon, ben, c'est toujours quand même, c'est toujours des moments des séparations. Là, on parle d'amour, mais il y a quand même derrière, donc il y a des rires de femmes. Où justement, des fois, c'est comme une petite vengeance où je me suis amusé en écrivant, en disant, mais tiens, voilà, il est parti pour une plus jeune, mais aujourd'hui, il fait moins le malin, quoi. Donc, voilà, ça méritait au moins ça.
Europe 1, en balade avec Titoff. Frédéric Taddeï.
Vous le connaissez, le théâtre de la Gaîté Montparnasse ? Vous avez déjà vos habitudes ?
Ah, j'adore. C'est vraiment. C'est un théâtre. En 20 ans de carrière, bien évidemment, j'ai joué beaucoup de théâtre à Paris. Et c'est vraiment. C'est un écrin. Franchement, pour la comédie, c'est vraiment un des meilleurs théâtres de Paris.
Pourquoi ? Il y a des théâtres pour la comédie et des théâtres contre la comédie ? Ou en tout cas, qui ne facilitent pas le rire ?
Voilà, il y a des théâtres ou des salles de spectacle qui sont moins, on va dire, chaleureuses que d'autres. Ça dépend un peu de la configuration, du plateau, des matériaux, de la longueur. Quand c'est très très long, bon, mais c'est moins bien.
On finira sur ce conseil, l'usage des jeunes humoristes.
Voilà, il vaut mieux que la salle soit plus, on va dire, ronde, large. Bon, allez, salut. c'est une théâtre à l'italienne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire,
oui,
comme quoi.
Bien sûr, on a tout de suite compris.
Voilà.
Merci Titoff de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle que vous serez donc dans Amoureux, mise en scène par Patrick Timsit, au théâtre de la Gaîté Montparnasse du 3 octobre au 29 décembre avec Roxane, votre partenaire. Je remercie la galerie Azedine Alaïa de nous avoir si gentiment accueillis. Je précise d'ailleurs qu'il y a une très belle exposition, Une autre pensée sur la mode, qui a lieu là-bas jusqu'au 5 janvier 2020. Je remercie également le Wooz et son propriétaire, Frédéric. Je remercie également la Retombe de la Muette. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Bon dimanche, sous vos applaudissements.
Allez, on fait les applaudissements alors. À dimanche prochain, Frédéric. Et en vous attendant, bien sûr, on peut réécouter cette balade sur europe1.fr.